Vous écoutez RTL.
Et vous, on vous retrouve à 16h pour un prochain point sur l'actu. À tout à l'heure, Bénédicte.
Merci. Tout à l'heure.
Que dire à un enfant qui angoisse, qui a peur du noir, des monstres, du monde qui l'entoure, des attentats? On apaise les petits esprits tourmentés tout de suite en direct sur RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Comment allez-vous bien? Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble et en direct, s'il vous plaît, sur RTL jusqu'à 16h. Quelle joie de vous retrouver depuis lundi et de constater que vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et alors à ce propos, vous êtes-vous déjà abonné à notre page Facebook? Nous y partageons toutes nos réflexions tout au long de la journée, pas seulement entre 15h et 16h, au sujet des thèmes que nous vous proposons. Vous y trouverez de l'humour, vous y trouverez de l'amour et puis parfois aussi des invitations de notre part à tenter des expériences. Alors justement, nous avons posté hier un bulletin vous proposant de vivre en direct lundi prochain l'analyse de votre écriture, de ce qu'elle dit de vous. Pour cela, on vous demande quelques infos, un petit texte, enfin tout vous est expliqué de toute façon sur le post sur notre page Facebook. Notre invité choisira deux d'entre vous. Si vous voulez tenter votre chance, rendez-vous maintenant sur la page Facebook d'On est fait pour s'entendre et puis vous suivez les instructions et tout se passera bien et on se retrouvera peut-être donc lundi en direct sur l'antenne d'RTL. 3210, les réseaux sociaux, place au sujet du jour. Nous sommes de bien petites choses dans ce monde, alors que dire de nos enfants? Bien qu'à l'âge de l'insouciance et de la légèreté, nos petits sont traversés par des inquiétudes qui parfois nous échappent. La peur d'aller dormir, la peur du noir, des monstres sous le lit, de la maîtresse, que papa et maman se séparent, la peur des attentats aussi, car l'actualité nourrit les inquiétudes de nos enfants. Alors comment apaiser les petits esprits tourmentés? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Isabelle Filiosa, bonjour.
Bonjour Flavie, bonjour
Soyez
à tous
bienvenue.
Et toutes.
Merci d'avoir accepté notre invitation Isabelle, vous êtes psychothérapeute. Alors c'est super parce que vous venez de découvrir votre dernier ouvrage.
Et oui,
donc,
il est sorti la semaine dernière.
Vous pouvez les retrouver d'ailleurs en nous regardant sur rtl.fr. Voici les ouvrages colorés d'Isabelle Filiosa. Alors auteur, on le sait, hein, de différents ouvrages sur les enfants. Ça s'appelle les cahiers Filiosa. Isabelle Filiosa, auteur du best-seller Au cœur des émotions de l'enfant, Colère et retour au calme.
Celui-ci est écrit en fait par Virginie Limousin, une de mes élèves, et je n'ai écrit que le petit cahier à l'intérieur, tandis que l'autre, je l'ai écrit entièrement.
L'autre, c'est le bleu, mes peurs, amis ou ennemis, donc Isabelle Filiosa, aux éditions Nathan. Alors c'est génial parce que vous découvrez le dernier, voilà, donc vous savez quoi, je vais même vous le laisser. Les peurs des enfants, est-ce qu'elles les construisent aussi quelque part, Isabelle Filiosa?
Ah oui, tout à fait. En fait, il y a des peurs naturelles dont on a absolument besoin parce que ça nous permet de nous protéger du danger. Si on n'avait pas peur, eh bien, on ne sauterait pas de côté quand un camion nous fonce dessus, donc ce serait un problème. Donc les peurs sont utiles, mais la peur des araignées, la peur de la maîtresse, la peur de toutes sortes de choses n'est pas vraiment utile. Et ça, ce sont des peurs construites, des peurs où on se raconte des choses dans notre cerveau qui font que du coup, ça déclenche de la peur de notre corps.
Voilà, il faut aider nos enfants, en tout cas, à évacuer ces peurs-là le plus tôt possible, de sorte qu'elles ne restent pas et qu'elles ne perdurent pas à l'âge adulte. À vos côtés, Angéline Després. Bonjour Angéline.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL.
Bonjour toute l'équipe.
Vous êtes psychologue, vous êtes fondatrice de l'école de l'estime de soi, consultante en éducation et promotion des compétences psychosociales et auteur d'un ouvrage aux éditions Erol, 50 activités pour aider votre enfant à grandir heureux. Alors, l'une et l'autre d'ailleurs, hein, vous proposez des activités aux enfants, c'est-à-dire que quelque part, vous pensez, Angéline Després, que l'enfant peut prendre en charge sa peur et que c'est peut-être aussi lui qui peut être acteur finalement de ce chemin vers une forme d'apaisement.
Alors, nous sommes à l'introduction, mais je dirais que vous faites déjà la conclusion, ouais. Quelque part. Parce
mais
que
vous savez, nous, on y va spontanément dans cette émission.
Et en effet, moi, je pense que c'est fondamental, en effet, de responsabiliser l'enfant. Parce que le premier réflexe, c'est de protéger en tant que parent ou en tant qu'éducateur. Et l'idée, c'est justement lui apprendre, quand on va l'accompagner, à comment être autonome pour justement affronter et faire face à sa peur, en fait. Donc, c'est fondamental.
La première chose aussi, Isabelle Filiosa, c'est de comprendre la peur de l'enfant, c'est-à-dire d'accepter qu'il ait peur. Vous savez, parfois, on a une tendance à se dire, mais enfin, tu vas quand même pas avoir peur d'une mouche. Tiens, d'ailleurs, si Denis Bonnet, quand on lui fait un coucou, nous expliquait tout à l'heure que sa fille a peur des mouches, donc on pourra lui répondre tout à l'heure. Mais on a une tendance parfois à considérer, à tort, ces peurs comme totalement fantasques et totalement ridicules.
Et du coup, à les balayer.
Exactement, d'un revers de la main.
L'enfant, du coup, se sent honteux et pas confortable. Alors qu'effectivement, il y a des peurs démesurées, comme la peur d'une mouche, mais il y a un chemin dans le cerveau de l'enfant qui a mené à cette crainte de la mouche. Et donc, notre job d'adulte, c'est de décoder ce chemin et libérer l'enfant du conflit qui est à l'intérieur.
Mesdames, je vous propose tout de suite d'accueillir Lucas. Lucas, il habite à Saint-Omer-en-Chaussée dans l'Oise. Il passe en sixième dans quelques jours. Salut Lucas.
Bonjour.
Comment ça va Lucas?
Ça va.
Bon, à quelques jours de la rentrée.
Et vous?
Super. Écoute, nous, tu sais, notre rentrée est passée depuis quelques jours. Toi, c'est quoi? C'est mardi prochain que tu rentres en sixième?
Non, lundi.
Lundi. Bon, très bien. Dis-moi, Lucas, est-ce que ça te fait un petit peu angoisser cette rentrée?
C'est les profs, tout le monde, tout ça, il y a au collège et ça me stresse quand même un peu.
D'accord. Est-ce que tu as d'autres peurs, toi?
Oui.
Lesquelles?
J'ai des peurs à la maison.
Ouais, c'est-à-dire?
J'ai peur des... Par exemple, j'ai peur... J'avais... Avant ou maintenant?
Avant et maintenant.
D'accord. Avant, j'avais peur du noir, des monstres sous les lits, tout ça.
Et maintenant?
Maintenant, j'ai plutôt peur des clowns tueurs, tout ça, des poupées qui font peur, tout ça, parce que... j'ai regardé des vidéos sur ça et ça m'a choquée. Et donc depuis maintenant j'ai peur et j'ai décidé de plus regarder des vidéos comme ça et comme ça maintenant j'ai plus peur.
D'accord, donc on va pas t'emmener voir le film Annabelle 2 qui est un film d'horreur qui est sorti dans les salles au début du mois d'août.
Non, et déjà j'ai pas l'âge de regarder ça.
Écoute, non, tu as raison parce que c'est interdit aux moins de 12 ans. Merci, tu as parfaitement raison. Mais en tout cas, si je te proposais d'aller voir un film d'horreur, tu voudrais pas venir avec moi?
Non.
Ça tombe bien parce que moi aussi ça me fait super flipper. Alors tu vois Lucas, ça c'est une peur qu'on partage tous les deux. Et ce qu'on va faire justement, c'est qu'on va se retrouver dans un instant sur l'antenne d'RTL. On va poursuivre un petit peu notre conversation sur tes angoisses et puis surtout on va en parler avec nos invités Isabelle Filioza avec Angéline Després. Tu ne bouges pas Lucas?
D'accord.
À tout de suite.
À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
RTL.
Christelle nous écrit sur Facebook. Meggy, 7 ans, a peur du noir depuis 3 ou 4 semaines. Ça lui a pris comme ça, tout à coup. Un jour, elle n'a plus voulu monter à l'étage car il y faisait trop sombre. Et cette peur, j'ai l'impression qu'elle s'amplifie. Je ne trouve pas d'origine, je ne trouve pas de cauchemar, un bon sommeil. Elle dort avec une veilleuse. Tout ça est vraiment bizarre. Clémentine aussi qui nous parle des terreurs nocturnes de son fils de 3 ans et demi. C'est atroce car je me sens impuissante. Pour les peurs banales, on arrive à peu près à le calmer. Mais là, c'est compliqué. Il nous réveille 4 fois par nuit. Il a peur du noir malgré 2 veilleuses, des bruit, etc. Je suis une maman désemparée. Ça tombe bien. Clémentine, Christelle et toutes les autres, sachez qu'aujourd'hui, cette émission est faite pour vous et pour vos enfants. Grâce à nos invités, Isabelle Filioza, psychothérapeute, et Angéline Després, qui est psychologue. Alors, elles sont en studio, mais en ligne, nous avons toujours notre invité du jour, mon nouveau meilleur copain, Lucas. Lucas, t'es là?
Oui.
Oula, mais dis-moi, tu es très entourée, là? Où est-ce que tu es, à la maison?
Non, je suis chez mon cousin.
Ah d'accord, donc il y a plein d'autres enfants.
Oui.
Est-ce que tu partages avec tes cousins justement tes peurs?
Comment?
Est-ce que tu partages tes peurs avec tes cousins?
Non.
Est-ce que vous en parlez ensemble de ce qui vous angoisse?
Non.
D'accord, ok. Pourquoi? Parce que ça se fait pas de dire qu'on a peur de quelque chose? Est-ce qu'on a un petit peu honte quand on a 11 ans d'avoir des angoisses comme ça, des trouilles?
Moi non, je pense pas.
C'est bien. T'as bien raison. Et je trouve ça super de pouvoir en parler aussi librement. Alors dis-moi, comment elles se traduisent tes peurs, toi par exemple, tes peurs des poupées, des clowns tueurs que tu as pu voir sur des vidéos? Ça veut dire que tu y penses, tu en rêves, tu peux les imaginer parfois dans la réalité, débarquant dans la rue? Comment ça se traduit?
Oui, des fois les clowns tueurs, dans les parkings souterrains, des fois ça me fait peur tout ça. Voilà.
Comment ça se traduit cette peur? T'as envie de partir en courant? T'as le cœur qui bat super fort?
Chez moi, le soir, des fois, je pense à ça le soir et j'arrive pas à dormir du tout.
Et dans tu en parles à tes parents dans ces cas-là, Lucas?
Oui.
Qu'est-ce qu'ils te disent?
Ils me disent, t'inquiète pas, et puis après, ils regardent dans la maison et puis il n'y a rien. Et puis après, ils retournent se coucher et puis voilà.
Et toi, tu te rendors?
Des fois oui, des fois non.
D'accord, ok. Est-ce que tu as des frères et sœurs?
Oui, j'ai une grande sœur.
Et tu en parles avec elle?
Non, pas spécialement.
Est-ce que tu veux bien en parler avec Isabelle Filioza et Angéline Després qui sont nos invités?
Oui.
Bon, alors, ouf, parce que tu nous aurais dit non, on aurait été mal barrés quand même. Alors, Isabelle Filiosa, Lucas, il nous raconte d'abord ses inquiétudes d'avant, on y reviendra, hein, parce qu'il y a des âges hein, pour les peurs, et des peurs pour les âges aussi. Il avait peur du noir, maintenant ça va mieux, mais maintenant aujourd'hui, il y a quelque chose qui l'obsède, c'est issu d'une vidéo. Qu'est-ce qu'on peut lui dire ?
Alors déjà, Lucas, ta peur entre 0, j'ai plus peur du tout, et 10, c'est absolument effroyable. T'en es où dans ta peur ? Elle est à quel degré, à quel niveau ?
Bah, angoissante.
Oui, et donc de 0 à 10, elle est plutôt à 2, un petite peur, 5, moyenne peur, 7, 5. D'accord. Donc 5, c'est, j'entends que vraiment tu as un peu peur, mais que quand même ça va.
Et oui, t'as bien fait. Je sais me contrôler.
Tu te contrôles, et oui, c'est ce que j'entends. Hein. Et c'est vrai que le problème, c'est que toi, tu cherches à te contrôler, mais ces clowns et ces poupées, on a l'impression qu'on ne peut pas les contrôler. Hein. Et c'est le problème.
Bah,
avec ces vidéos, en fait, il y a les clowns, les poupées, ou toutes sortes de vidéos dangereuses, enfin problématiques, qui font peur. Hein. On se sent impuissant quand on les regarde. Et donc, on éprouve la peur, et on ne peut rien faire. Alors, un petit truc, Lucas, pour te libérer de cette peur, c'est de reprendre du pouvoir sur ces clowns. Alors, avec un de tes parents, tu décides de regarder la même vidéo, une vidéo de clown qui est dangereuse, mais tu prends un truc où tu peux revenir en arrière, tu manipules le clown.
D'accord.
Tu le fais aller en... Et voilà, j'entends ta voix, la voix que tu as. D'accord.
Tu peux le faire sortir de ta tête.
Tu reprends du pouvoir. Voilà. C'est toi qui décides ce que tu as dans ta tête. Tu peux imaginer une cerise sur un gâteau ? Tu peux l'imaginer ? Tu peux la voir dans ta tête ?
Oui.
Tu peux voir ce gâteau ? Un gros gâteau avec plein de chocolat et plein de... Eh bien, il n'existe pas. Tu ne peux pas le manger. Pas de peau, hein. Mais... Voilà, c'est comme ça que fonctionne l'imaginaire.
Le clown est pareil, donc.
Le clown est exactement pareil. Tu peux lui faire ce que tu veux à ce clown. Quand tu le vois arriver le soir dans ta tête, eh bien, tu le déguises, tu le changes, tu lui changes la couleur de ses cheveux, etc. Tu reprends du pouvoir sur le clown.
Et finalement, le clown va devenir un bon pote que tu convoqueras tous les soirs au moment de te coucher, avec lequel tu pourras te marrer. En fait, ce que vient de t'expliquer Isabelle Filiosa, Lucas, c'est que tu peux avoir un pouvoir sur ton imagination. Et que finalement, ce clown, même en regardant la vidéo, je pensais à ça, Isabelle, regarder une vidéo, même en expliquant les trucs de cinéma, c'est-à-dire voir comment le clown a été fait, les making-of de films qui t'expliquent comment ils ont fait les poupées et tout. Et là, tu te rends compte qu'on est vraiment dans quelque chose qui est en silicone, qui n'existe pas, avec des yeux qui sont actionnés par des machines. Et en fait, c'est désacraliser. C'est ça, hein, l'idée d'Isabelle.
C'est ça. C'est ça, c'est comprendre. En fait, on a peur de ce qu'on ne peut pas maîtriser.
Oui.
Et donc, plus on peut augmenter notre maîtrise d'une manière ou d'une autre, sentir notre pouvoir, moins on a peur. Et les phrases du style « t'inquiète pas » ne servent, hélas, à rien. On a tous envie de rassurer nos enfants. En tant que parent, on essaye de rassurer, ok, mais 15 secondes. Si au bout de 15 secondes, rassurer ne marche pas, on fait autre chose.
Dans un instant, Angéline Després, vous allez pouvoir parler avec Lucas et lui livrer votre truc à vous qui pourra servir à d'autres enfants et à des parents qui nous écoutent. Lucas, ne bouge pas. T'as vu, tout à coup, le clown, il finit par nous faire marrer, la poupée tueuse et tout, là. Ça devient rigolo. Ouais. Allez, on se retrouve tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h. Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Contente de vous retrouver sur l'antenne d'RTL, nous écrit Coraline. Bah, si vous saviez comme on est heureux, heureuse aussi de vous retrouver. Ma fille de 3 ans a peur du robot aspirateur. Que faire ? On va vous répondre, Coraline. Madame Cécile qui nous écrit que sa fille de 9 ans, depuis toute petite, angoisse à l'idée d'enfiler un vêtement avec des boutons, nous écrit-elle. J'ai essayé beaucoup de choses pour atténuer cette peur, mais n'ayant jamais compris d'où elle provenait, je ne sais pas comment la faire disparaître. On va vous livrer plein de trucs et astuces. Quand je dis « on », non, moi je n'y suis pas pour grand-chose. En revanche, mes invités sont là justement pour pouvoir en parler avec vous et avec vos enfants si vous le souhaitez, en composant le 3210. Isabelle Filiosa vient d'échanger avec Lucas. Isabelle, vous avez permis à Lucas de désacraliser finalement ces monstres, les clowns tueurs, les poupées d'horreur et compagnie, en expliquant tout simplement qu'effectivement ce ne sont que des choses de l'imaginaire et qu'on peut reprendre le pouvoir sur l'imaginaire, donc donner aux enfants cette force-là et leur expliquer qu'ils ont cette possibilité d'actionner finalement leur imaginaire. Angéline Després, vous êtes également notre invitée. Lucas, tu es toujours là ?
Oui.
Est-ce que ça t'a fait du bien ce que t'a dit Isabelle Filiosa ?
Oui.
Oui, ça t'a donné une petite piste de réflexion et d'action là, pour ne plus avoir peur ?
Oui,
Bon, très bien. Alors, on va écouter Angéline maintenant. Angéline, qu'est-ce que vous pouvez expliquer à Lucas au sujet de ses angoisses?
Alors déjà, ce qui m'étonnait quand j'ai entendu Lucas, c'est que Lucas, tu disais, j'ai eu des peurs que j'ai réussi à surmonter et en fait, j'ai des nouvelles peurs qui sont plus difficiles, qui apparaissent, enfin, qui sont plus difficiles à disparaître. Alors, ce que je voulais te dire, c'est qu'il y a une très bonne nouvelle, c'est que tu as des ressources pour faire face à tes peurs. Parce que quand on a déjà géré des situations et qu'on a su les dépasser, ça veut dire qu'on a des ressources en soi. Donc moi, ce qui m'intéresse, là où j'ai envie de fouiller, j'ai envie de te dire, dis-moi Lucas, comment tu as fait pour surmonter tes premières peurs? Quelle stratégie tu as utilisée?
Quand j'avais peur du noir, je disais à mes parents que j'avais peur du noir quand j'étais petit. Et puis ils allumaient la lumière et puis ils disaient, bon, il n'y a rien, c'est pas grand-chose, t'inquiète pas. Et puis voilà, et puis après je me rendormais.
Super. Donc si on analyse ça les deux ensemble, ça veut dire que la solution que tu as, une première solution que tu as quand tu rencontres une peur, là ça a été quoi la solution finalement? Ça a été de parler avec tes parents. T'es d'accord?
Oui.
Donc ça, c'est une première solution. Et tout à l'heure, quand tu discutais avec Flavie, hein, Flavie t'interrogeait et disait est-ce que tu en parles, ces peurs, autour de toi, avec ta sœur? Et c'est vrai que le fait de parler de ces peurs, ça libère. C'est une première solution. Est-ce que d'accord. Tu penses à d'autres stratégies que tu as pu mettre en place?
Pour les bruits, en fait, quand j'étais petit, il y avait des bruits de toit, comme toutes les maisons. Et j'avais peur que c'était quelqu'un. Et donc voilà.
Et du coup, comment tu as dépassé cette peur, justement? Tu disais, tu avais peur que ce soit quelqu'un. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu n'as plus peur de ces bruits?
Mon papa, il allait regarder dans la maison. Et puis après, il me disait, non, t'inquiète pas, c'est rien du tout. C'est juste le toit qui craque. Et puis après... On se rendormait.
Donc ça veut dire qu'il faut savoir se transformer des fois en Sherlock Holmes, c'est-à-dire, et puis trouver des complices avec nous pour vérifier. Hein, et quand on va trouver de l'information, parfois l'information va nous montrer que finalement nos peurs ne sont pas toujours rationnelles, ne sont pas toujours... elles sont imaginaires. On revient à cette notion d'imaginaire. Et donc c'est une très bonne manière aussi de confronter ses peurs et de faire face à ses peurs. Donc à cette manière-là, tu peux continuer, tu vois Lucas, comme tu as des ressources, ça veut dire que tu es capable d'affronter tes peurs et chaque fois d'accord. Trouver des nouvelles solutions pour y faire face. Est-ce que tu as déjà pensé à une solution pour faire face au clown? Est-ce que tu penses déjà à une idée avec une idée te vient pour justement ne plus avoir peur des clowns?
Comme l'a dit la madame d'avant,
Isabelle.
Isabelle. On transforme le clown et puis après ça devient fantaisiste.
Voilà.
Et puis voilà.
C'est exactement ça. Et puis vraiment, regarde comment les clowns sont construits, parce que souvent, on a tous, alors on est un peu plus âgés que toi, mais on a tous été marqués par des films, par des documentaires, par des images. On reviendra sur l'influence des réseaux sociaux avec vous dans un instant, mais des images qui nous ont marqués. Tu vois, il y avait un film qui s'appelait Les Dents de la Mer et qui a traumatisé la génération dont on fait partie. Et on ne peut pas se baigner maintenant sans entendre le générique dans notre tête, alors que c'est de l'imaginaire, tu vois. Donc en fait, l'idée, c'est parfois de vérifier comment les choses sont faites. Et si tu t'intéresses au cinéma d'horreur, si tu veux comprendre, tu te rendras compte que le sang, c'est du ketchup, que les yeux, ils sont articulés, qu'il y a des messieurs dont c'est le métier de construire des monstres en plastique et qui n'ont absolument aucun pouvoir et aucune âme, quoi. Et ça, ça rassure. Donc la vérification, ça, c'est vraiment l'un des éléments que vous nous avez livrés. Bon, Lucas, on te remercie en tout cas d'avoir partagé ça avec nous.
De rien, et merci à vous aussi.
Merci Lucas.
Et puis on te souhaite une super rentrée en sixième, parce que là, ça y est, c'est une nouvelle étape. Et tu vas voir, ça va être passionnant, tu vas apprendre plein de choses. Et puis maintenant, tu seras un collégien, donc attention, attention. Lucas, on te fait des bisous, à bientôt.
Oui, moi aussi, au revoir.
Salut,
au revoir,
Lucas.
Au revoir Lucas.
Qu'est-ce que c'est mignon, ces enfants qui parlent de leurs peurs. Déjà, en parler et les exprimer, c'est l'une des premières choses que vous avez conseillées, notamment vous, Angéline Després. On a un message d'Emma sur Facebook. Ma fille de 2 ans a peur des chiens, des nouveaux bruits, des sons ou encore de l'orage. On lui explique, on l'accompagne, on l'écoute, on la rassure. J'ai l'impression que dès qu'il y a une explication rationnelle, la peur est écartée. Voilà, donc peut-être qu'effectivement, il faut juste remettre les petits petons de nos enfants sur terre, de sorte qu'ils puissent comprendre ce qui fait partie de l'imaginaire et ce qui fait partie de la réalité. On va se retrouver dans un instant, parce qu'en même temps, les enfants, ils ont peur de l'inconnu. C'est-à-dire qu'il y a
et
tout un monde qui les entoure, et ça, c'est normal. Et on va voir comment répondre à leurs premières inquiétudes. A tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Priscilla a bien grandi, mais elle se souvient que petite, elle avait peur d'avoir les pieds et la tête en dehors de la couette, de peur qu'un monstre m'attrape. Du coup, je dormais complètement couverte. Mais heureusement, maintenant, je vais mieux. Bah, écoutez, heureusement, Priscilla, effectivement. Mais il en est certains qui sont vraiment paralysés par leurs inquiétudes. Priscilla, son témoignage, en fait, résume cette émission et le thème des peurs de nos enfants pour expliquer à quel point c'est irrationnel. Comme si une couette, une malheureuse couette, pouvait protéger des monstres. Elle avait la tête et les pieds qui sortaient de la couette. Donc c'est un peu de la pensée magique aussi, Isabelle Filioza.
Oui, et c'est une attitude qu'on appelle contraphobique, c'est-à-dire qu'il y a la peur, et qu'est-ce que je peux faire pour,
l'antidote à la
contre
peur.
La peur. Voilà, ouais. Donc la baguette là, elle avait magique. Trouvé qu'il y avait la couette, eh ben, c'était pas si mal. Vers 4 ans, l'enfant produit des images mentales qu'il ne sait pas encore très bien organiser, donc ça fait déjà des petits films dans sa tête sans qu'il en ait véritablement la maîtrise, d'autant qu'il est rare que les parents lui disent, est-ce que tu veux que je t'aide et que je t'apprenne à manipuler, à organiser ton cerveau pour savoir diriger tes images mentales. Donc, il y a une irruption comme ça de toutes sortes de monstres qui sont en fait les émotions de l'enfant qui prennent des formes. Comme il ne gère pas ses images mentales, il ne sait pas qu'il peut, comme je le disais à Lucas tout à l'heure, diriger les images et voir que ça devient rouge ou vert ou là. Il ne sait pas qu'il peut les diriger. Et donc, quand il se couche, pourquoi c'est souvent le soir ? Parce que sur le lit, il y a des ombres. Et l'enfant ne fait pas bien la distinction, le réel, l'imaginaire, tout ça est un petit peu flou dans son cerveau. Et donc, du coup, le moindre mouvement de quelque chose dans l'ombre, une ombre qui est là, un pyjama qui est resté, une peluche, fait un truc, dit oh là là, et tout de suite ça prend forme, ça fait un monstre. Et du coup, l'enfant se retrouve avec une peur des monstres. Et il trouve des stratégies pour pouvoir... donc là, elle a trouvé de mettre la couette. Et sinon, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'allumer plus la lumière et voir, ah, c'est une ombre. Et ensuite, jouer avec ça, jouer avec les ombres, jouer avec l'imaginaire. Apprendre à utiliser les images mentales, jongler avec pour ne plus... les subir.
Ces peurs-là, elles sont logiques aussi, Angéline Després. Quand on est petit, je le disais en début d'émission, on est de petites choses dans le monde. Alors, en plus, quand on a 3 ou 4 ans, on ne s'attend pas au bruit, on ne comprend pas forcément la façon dont les choses s'organisent autour de nous. Ces peurs-là, elles sont compréhensibles.
Elles sont naturelles. Et ce qu'on peut dire, c'est que la peur, c'est même universel. Hein, non seulement c'est logique chez les enfants, mais c'est en fait une émotion qui est prouvée par tout le monde. Et d'ailleurs, il y a même des cartes qui disaient, il s'agit de la chose la mieux partagée.
Et c'est vrai
que c'est... On dirait que c'est presque, quand on parle du mot peur, comme si c'était un sujet tabou. Mais fait, nous avons peur, les enfants ont peur, les adultes ont peur. Simplement, on n'utilise pas le même vocabulaire. Ce qui est étonnant, quand on parle des enfants, on va parler de peur. Et quand on va parler des adultes, on va parler de stress, d'angoisse. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? De la peur. Donc la peur, elle nous habite petit, grand. Simplement, voilà, plus on s'y prend tôt pour apprendre à la gérer, à y faire face, et plus quelque part on arme, j'ai envie de dire, notre enfant pour, je veux dire, rebondir dans la vie et avancer surtout. Parce que parfois, la peur peut nous arrêter. Et donc, c'est essentiel.
Alors, il y a des peurs universelles. La peur du noir, la peur que papa et maman se séparent.
La peur du noir, pas vraiment.
Ah bon ?
Non, elle est très répandue, mais en réalité, on n'a pas vraiment peur du noir. On a peur de quelque chose qu'on imagine qui peut se passer dans le noir.
J'entends. Alors, la peur de quelque chose qu'on imagine qui peut se passer dans le noir. On a également la peur que les parents se séparent. Il est des peurs comme ça qu'on retrouve, on va dire, chez beaucoup d'enfants, si on prend une classe. Ils partageront certaines peurs. Et puis parfois, il y a des peurs qui semblent complètement fantaisistes, quelque part, et qui peuvent laisser les parents un peu démunis. Coraline qui nous explique que sa fille de 3 ans a peur du robot aspirateur.
Oh, ça, c'est pas trop irrationnel. Presque tous les enfants de 2-3 ans ont peur des robots aspirateurs. Et peur aussi des... Je me rappelle quand j'avais offert un petit train électrique à mon fils. Il était terrorisé parce que ça avançait tout seul. Et finalement, c'est une attitude saine. Les trucs n'ont pas à avancer tout seul. Donc, enfant de cet âge-là, il a besoin de maîtriser. Là encore, on oppose cette dynamique peur quand on ne maîtrise pas. Et c'est quand même étrange. Alors, un robot aspirateur, il roule tout seul. Et donc,
oui, c'est vrai. D'accord. Normal, vu comme quoi. Ça, effectivement, oui.
Ce qui peut rassurer, c'est qu'en fait, il s'agit de peurs transitoires. Donc, ça peut rassurer les parents en se disant, ça fait partie du développement personnel. Et à un moment donné, il est légitime que l'enfant ait peur. C'est plutôt même sain. Ce qui ne serait pas sain, c'est qu'un enfant n'ait pas peur. Et parfois, on se focalise sur l'objet, mais parfois, l'aspirateur, je pense que c'est peut-être plus le bruit qui fait peur que l'aspirateur en lui-même. Et donc, quand on regarde, on se rend compte que les enfants qui ont peur du bruit de 6 à 24 mois, c'est quelque chose de tout à fait normal, quoi, en fait.
Qu'est-ce qu'on peut conseiller à Coraline pour sa petite fille de 3 ans qui a peur de l'aspi? De lui faire passer l'aspi.
Alors,
Pardon,
ça lui redonne du
pouvoir. Oui.
Tout à fait. Mais en même temps, on a besoin de savoir si c'est le mouvement autonome de l'aspirateur
qui lui demande.
Pose souci, ou si c'est le bruit. Comme le dit Angéline, parce que si c'est une hypersensibilité au bruit, il est inutile de l'exposer excessivement.
D'accord.
Si c'est parce que le truc bouge tout seul, là, effectivement, on peut lui permettre de passer, elle, l'aspirateur.
Par contre, je trouve qu'en effet, l'idée de jouer avec ce qui nous fait peur est une excellente manière d'appréhender quelque chose qui nous fait peur, justement.
De pouvoir avoir ce fameux pouvoir. Madame Cécile qui nous parle de sa fille de 9 ans qui, depuis toute petite, angoisse à l'idée d'enfiler un vêtement avec des boutons.
Alors là, le problème, c'est qu'il nous faudrait de l'historique. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Angéline, mais il nous faut vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pour que là, manifestement, l'enfant a fait un lien entre les boutons et quelque chose. Une émotion, une réaction, quelque chose qui lui a fait peur. Ça peut être toutes sortes de choses et ça s'est focalisé sur le bouton.
Voilà, donc,
l'idée, c'est qu'en fait, il y a eu dramatisation. Et l'idée, c'est de dédramatiser. Et donc, encore une fois, on peut faire appel au jeu en se disant de manière ludique comment, à un moment donné, je peux jouer en renfilant quelque chose autrement, en disant ça devient quelque chose de, voilà, un jeu. Et, ou alors peut-être...
Habiller une poupée.
Si tu habilles
toi tes poupées, pourquoi est-ce que tu t'habilles pas toi-même,
non ? Oui, en désolidarisant quand même les deux actions. C'est-à-dire qu'il y a d'abord à apprendre à boutonner, gérer le bouton. Donc, il y a des petits boutons qui sont trouvables maintenant dans les magasins de jeux, le travail Montessori, etc., où là, l'enfant peut apprendre à boutonner, déboutonner, sans que ce soit associé à habillage. Quand il y a des peurs comme ça, où il y a plusieurs choses en même temps, il vaut mieux séparer. Une fois qu'elle sait bien boutonner, déboutonner, elle a repris du pouvoir là-dessus, alors elle peut habiller une poupée, tout à fait d'accord. Ensuite, on s'habille pour de faux, on met un bouton. Pour de faux, attention.
Progressivement.
Plusieurs fois. Et ensuite seulement... elle peut expérimenter.
Très bien. En tout cas, on peut inviter Madame Cécile à revenir plus en détail sur les angoisses de sa fille sur le site d'RTL. On essaiera d'y répondre après l'émission. On se retrouve tout de suite.
Vous écoutez RTL.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
Flavie Flamand.
Il est plein de petits esprits tourmentés et des parents qui nous laissent des messages sur les réseaux sociaux. Surtout, n'hésitez pas, nous sommes en direct jusqu'à 16h pour parler des peurs de nos enfants. Comment aider nos enfants à trouver les ressources nécessaires pour mieux gérer leurs peurs, voire aussi pouvoir les dégommer. Alors, Cindy nous a laissé un message. La peur la plus terrible pour ma petite fille de 3 ans est celle d'aller à la selle. Je vous laisse imaginer à quel point ça lui pourrit la vie. J'espère avoir des conseils à ce sujet car je ne sais plus quoi faire pour débloquer cette peur. Elle va jusqu'à se retenir pendant 10 jours et c'est vraiment psychologique. Alors, cette petite puce-là, est-ce que c'est une peur, Isabelle Filiosa, que l'on retrouve chez beaucoup de jeunes enfants, la peur d'aller à la selle ?
Oui, effectivement, c'est une peur assez courante. Certains bloquent carrément, d'autres ne veulent faire caca que dans la couche, et donc ils remettent la couche pour pouvoir faire caca.
Donc, c'est le passage à la propreté.
Seulement derrière un canapé, ils ne font que là. Il y a toutes sortes de rituels qui entourent ça. Et c'est un problème complexe qui peut avoir des causes un petit peu complexes. La première chose, c'est déjà que Cindy a 3 ans, est-ce qu'elle va à l'école ? Parce que quand un enfant va à l'école, souvent tout se dérègle un peu parce que les toilettes à l'école, ça fait un peu peur. Il y a les autres qui se moquent souvent et très souvent, et surtout les filles, se mettent à se retenir. C'est pas toujours aussi propre qu'on espérerait, même si normalement dans les écoles, ils doivent nettoyer toutes les 2 heures, mais bon, pas toujours fait. Bref, il y a beaucoup de tensions pour les enfants. Donc, si elle commence à... Elle a une émotion, quelque chose qu'elle garde à l'intérieur d'elle... Et elle généralise ensuite à tout.
D'accord.
Ça, c'est une piste. Une autre piste, ça peut être simplement que, quand on fait caca, qu'est-ce qui se passe ? Où va mon caca ? Et l'enfant, à cet âge-là, commence à percevoir, c'est quand même une partie de lui, c'est perdre une partie de soi.
Je comprends.
Ça fait, c'était à l'intérieur de moi et tout d'un coup, ça n'est plus à l'intérieur de moi. Les enfants croient que dans les intestins, c'est l'intérieur. La plupart des adultes aussi, d'ailleurs. Mmh. En réalité, c'est les intestins, c'est notre peau externe à l'intérieur. Donc, finalement, c'est comme si les choses passaient dans un tunnel. Globalement, on peut expliquer, là encore, à un enfant. Il y a des tas de petits livres qui expliquent où vont les cacas et des livres aussi qui montrent comment ça se passe quand on mange quelque chose, qu'ensuite, c'est comme ça rentre dans un tunnel sous une montagne, mais la nourriture n'est pas, ou la voiture qui rentre dans le tunnel, elle n'est pas dans la montagne. Elle est sous la montagne, dans le tunnel seulement. Elle traverse, elle va ressortir de l'autre côté. De la nourriture que je mange, ça rentre dans le tunnel que tout le système digestif, puis ça a besoin de ressortir. Quand l'enfant comprend tout ça, ça facilite. Et puis il y a quand même aussi une autre chose, c'est qu'à 3 ans, c'est très compliqué parce qu'on nous demande de faire sur des sièges avec souvent les jambes qui pendent.
Et on est tout petit. Et si on tombe ?
Il y a ça aussi.
Non, je ne sais pas, j'essaie de
mais
mettre...
Mais c'est surtout que c'est très difficile, parce que la position physiologique pour faire caca très facilement sans que ça pose souci, c'est accroupi.
Oui, c'est vrai.
Et donc, très souvent, les enfants redemandent la couche parce que ça leur permet de faire caca accroupi.
Et
c'est trop difficile, parce que tout simplement, ça ne sort pas facilement du tout. Et donc, ils se sentent pas bien, ils se sentent comme... Et du coup, ça déclenche toutes sortes de craintes ou d'inconfort.
Bon, Cindy, en tout cas, tenez-nous au courant, s'il vous plaît. On va accueillir Caroline sur cette antenne. Bonjour Caroline.
Bonjour Flavie.
Merci d'être avec nous Caroline. Vous êtes blogueuse Voyage Family. On connaît votre blog et ça veut dire que vous emmenez toute votre petite troupe en voyage régulièrement, notamment votre petit garçon. Il a 6 ans, il a plein de petites peurs. Comment s'appelle-t-il ?
Charlie.
D'accord. Alors Charlie, il a plein de petites peurs. J'aimerais bien qu'on revienne sur deux de ses peurs, la peur de l'orage et la peur du feu. Est-ce que vous pouvez rapidement nous expliquer l'origine de ces peurs ?
Alors l'orage, l'année dernière on a été au Mexique et on s'est retrouvé sur une magnifique plage, dans une magnifique paillote, sauf qu'on a eu un magnifique orage en plein milieu de la nuit, avec énormément de tonnerre, et l'orage a tourné tout autour de nous toute la nuit, avec l'eau qui coulait, tout ça, et bon, en fait on n'en a pas du tout parlé, sauf qu'au retour du Mexique, bizarrement, à la maison, il s'est mis à avoir peur tous les soirs qu'un énorme... éclair tombe sur la maison et qui nous grille. Voilà, qui nous... Ouais.
Et sa peur du feu ?
Alors la peur du feu, il y a eu malheureusement un petit accident à côté de nous, une maison d'un petit élève qui est avec lui en classe qui a pris feu et ils ont dû être évacués et même changer de maison. Et pareil, alors du coup, ça c'est une peur très très forte, il m'en parlait tout le temps, toute la journée, en permanence, pas que le soir même de cette peur-là.
Alors vous avez cherché à répondre à cette peur parce que vous êtes allé voir les pompiers ensemble, ce qui est une super initiative, et ça n'a pas suffi à rassurer Charlie ?
Non, il continue à avoir peur, donc moi, alors du coup j'étais un peu démunie parce que j'avais pas d'autre solution à lui proposer. Je lui ai demandé s'il voulait qu'on aille en parler ensemble à une dame qui était capable de l'aider à enlever sa peur, un psy en fait en gros, mais il m'a dit oui. Et puis en fait le matin je me suis dit, en l'emmenant à l'école, je me suis dit finalement pourquoi j'en parlerais pas aussi à la maîtresse qui est une autre dame qui est extérieure et qui peut avoir peut-être un autre une autre parole, un autre regard que les parents. C'est ce que j'ai fait, j'en ai parlé de manière confidentielle, sans Charlie. Et puis c'est la maîtresse qui a géré, qui m'a dit bah vous me laissez la semaine et on s'en reparle dans une semaine. Et donc elle lui en a parlé 2-3 fois je crois.
D'accord.
Elle l'a pris à part et bah, ça a marché. Parce que depuis, cette peur est partie. Il avait besoin d'en parler peut-être à quelqu'un d'autre que ses parents.
Très bien.
Voilà.
Caroline, vous restez avec nous. On va se retrouver dans un instant avec nos invités. On va parler, si vous le voulez bien, de ces peurs sur des choses qu'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas l'orage, on ne maîtrise pas un incendie, enfin, a priori, dans l'esprit. Comme on ne maîtrise pas, ça fait partie des angoisses aussi de certains enfants, les attentats et l'actualité. À tout de suite sur RTL. Ne bougez pas, Caroline.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Caroline, vous êtes toujours avec nous pour nous parler de Charlie. Charlie, qui a des angoisses, la peur de l'orage, la peur du feu notamment. Vous nous avez expliqué l'origine de ces peurs il y a un instant sur l'antenne d'RTL. Et donc, c'est une instinct, hein, c'est son instinct qui a permis à Charlie de gérer sa peur du feu. Vous vouliez rebondir là-dessus, Isabelle Filioza, parce que qu'est-ce qui fait qu'un instinct peut faire ce qu'un parent ne fait pas ?
Et c'est la technique du deuxième poussin. En fait, le problème, c'est que le parent, il est forcément inquiet pour son enfant et donc il est sous stress aussi et donc ça stresse l'enfant. Quand on fait peur à un poussin et on met un deuxième poussin à côté de lui, si on a préalablement terrifié le deuxième poussin, on rajoute énormément de peur, le premier poussin est terrifié. Si on met un deuxième poussin tout calme, qui n'a pas peur, le poussin qui a peur se calme. Et donc, nous nous calmons. Et une des choses qu'on peut faire quand un enfant a très peur, tu as peur de l'orage ? Ok. Regarde-moi bien dans les yeux et dis-moi si moi j'ai peur. Au lieu de dire « ne t'inquiète pas », on regarde l'enfant bien dans les yeux et on dit « regarde-moi dans les yeux, est-ce que tu vois de la peur dans mes yeux ?» C'est ça la technique du deuxième poussin.
D'accord. Et il faut dire aussi que Caroline, vous étiez avec Charlie, notamment le soir de l'orage. Hein,
oui, parce que du coup j'ai un petit peu peur aussi.
Bah voilà, c'est ça. Bah oui, donc il y a cette idée d'avoir partagé.
Et
ceci
voilà.
Dit, pour être tout à fait clair hein, et honnête avec vous, Caroline, j'aurais pas été très fière non plus dans la paillote sous l'orage. Mais c'est une peur qui a été partagée et effectivement, on ne se tourne pas forcément vers ceux qui ont partagé la peur et qui l'ont vécu en même temps que nous pour pouvoir s'en sortir. Angéline, on va rebondir sur les peurs de Charlie, la peur de l'orage et la peur du feu. Ce sont des quoi ? C'est l'interprétation finalement du moment qui a généré la peur chez Charlie ?
Il peut y avoir du traumatisme dans une peur. Et je pense que pour notamment la peur du feu, qui est quelque chose d'assez conséquent, parce qu'il y a les faits normaux, on peut pas nier la réalité par rapport aux enfants, parce que ce serait leur cacher la vie et ne pas non plus les mettre en face de la réalité.
Oui.
Donc les orages font partie de la vie. Par contre, il y a des incidents, tels que les accidents de feu, qui sont là des choses événementielles, mais du coup qui vont traumatiser. Et donc, du coup, quand c'est le cas, on va faire réfléchir la personne sur la situation. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là ? Et qu'est-ce que tu as ressenti ? Parce que souvent, ce qui se passe, souvent, on a plus peur de nos peurs.
Hein, on l'a pas de l'effet de la peur.
De l'effet de la peur. Et donc, du coup, l'idée, c'est comprendre le cercle vicieux qui s'est mis en place pour justement essayer de reconstruire un cercle vertueux, cette fois-ci. Hein, c'est-à-dire...
Alors, comment transformer ça ?
Alors, comment on fait ? Donc, du coup, c'est... Par exemple, si je prends la situation, j'ai vu le feu, j'ai eu très peur, j'ai vu des images. Du coup, comment tu t'es senti ? J'ai eu peur. Et après, donc du coup, quand tu as eu peur, comment ça s'est traduit en termes de comportement ? Mais du coup, finalement, le soir, quand je suis dans mon lit, je revois souvent les images. D'accord. Et du coup, comment tu es dans cette image ? Tu es allongé, tu fais quoi ? D'accord. Et qu'est-ce que tu dis ? Quelle est ta croyance ? Ben, du coup, toutes les maisons peuvent brûler. D'accord. Est-ce que tu penses vraiment que toutes les maisons peuvent brûler ? Et donc, on va remettre en cause la croyance de la personne.
D'accord.
Pour voir si on peut pas plutôt mettre une pensée aidante. Parce que tout est pensé dans notre tête. Mais à un moment donné, il y a les pensées limitantes et il y a les pensées aidantes. Et c'est comment je vais reconstruire avec la personne une pensée aidante pour lui permettre de rebondir dans la vie.
Est-ce que ça peut s'appliquer aussi, dans ce cas-là, Caroline, je ne sais pas si Charlie partage ses inquiétudes des enfants aujourd'hui, mais la peur des attentats, la peur, cette vulnérabilité qui est la nôtre dans un monde effectivement qu'on peut pas leur cacher. Plus on leur cache, plus leur adaptation sera difficile.
Oui, alors ce qui est bien, c'est qu'en fait, on se rend compte que souvent la pensée, quand il y a des rives, hein, c'est toujours au niveau de la pensée. Et on ne peut pas s'empêcher de penser. Mais à un moment donné, ce qui se passe, c'est que la pensée, elle dérive quand il y a distorsion, quand il y a mauvaise interprétation, quand il y a des mauvaises croyances qui se mettent en place. Et tout le travail d'un psychologue ou d'un parent ou d'un éducateur, c'est de se dire, justement, on dit questionner la peur de la personne pour voir quelles sont les craintes derrière.
Ouais.
Qu'est-ce qui s'est mis en
Mais
place
qu'est-ce qu'on leur dit, par exemple, sur les attentats ?
Ben, sur les attentats, de leur dire que oui, certes, c'est arrivé et que c'est tragique. Et que peut-être de dire que la vie c'est quelque chose de précieux, que tout n'est pas mort, et puis de se dire justement comment on cultive, comment on devient responsable de sa vie et on contribue à créer un monde auquel on a envie d'appartenir.
On fait ça à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans.
C'est
passe par-dessus l'épaule. Hein.
Voilà, même de poser les bonnes questions, c'est pas évident, je trouve. Quand on est parent, quand je vous écoute là, je me sens pas vraiment capable de.
Oui, de retenir ce genre de discours.
Alors, plus pour les enfants, dans le cahier d'activité, je fais le parallèle. parallèle avec les pompiers. Donc, le camion de pompiers, c'est le système d'alarme de la système de peur. Et donc, le pompier arrive, ils éteignent le feu, puis il y a le retour à la caserne. Le retour au calme, le retour à la caserne est nécessaire pour pouvoir ensuite faire face au feu. Et donc ça, enseigner à un enfant, parce que sinon, il reste dans j'éteins le feu.
Mais sur les attentats, là maintenant, sur l'actualité qui, aujourd'hui, est une véritable source de peur pour les enfants. Qu'est-ce qu'on peut leur dire sur le monde qui les entoure ?
Eh bien, c'est comme ça que j'ai permis à ma petite nièce de revenir au calme. C'est en lui expliquant combien elle avait absolument besoin de revenir à la caserne si elle veut être vigilante. Et que garder, être complètement en alerte tout le temps ne permet pas de se protéger. Et que si on veut se protéger, on a vraiment besoin, on va être super efficace sur le moment, le feu, mais dès que c'est terminé, je reviens à la caserne. Donc oui, je ressens les choses quand je fais quelque chose, puis je reviens à la maison.
Mesdames, ce que je peux vous proposer dans ce cas-là, c'est qu'on se retrouvera pour aborder ce sujet, la peur du monde qui les entoure de nos enfants, pendant toute une heure lors d'une prochaine émission. Caroline, je vous remercie en tout cas d'être intervenue sur cette antenne. Je rappelle votre blog qui n'a rien à voir avec la peur justement, c'est Voyage Family. Ça permet de s'évader comme ça quand on est rentré, donc c'est plutôt sympa parce qu'on repart en vacances grâce à vous. Et on vous souhaite plein de bonnes choses, Caroline.
Merci Flavie, bonne rentrée à tous.
Au revoir. Et puis un message de Monique qu'on a reçu. Dans le contexte de mon cours de français langues étrangères, il y avait un moment où nous parlions de nos peurs après avoir visionné les trois brigands. Les enfants étaient de tous les pays européens, mais les peurs étaient les mêmes. J'avais pris une photo de chacun debout sur une table et les enfants mimaient leur peur. Ils découpaient leur photo, ils la collaient sur une carte avec comme décor l'objet de leur peur. Ils ont présenté leur carte à leurs camarades et quel bonheur de les voir capables d'en rire. Voilà, des trucs et astuces, vous les retrouverez aussi de tous nos auditeurs sur la page Facebook de notre émission où vous avez été très nombreux justement à livrer des petits conseils. Et c'est ça, on est fait pour s'entendre, c'est du partage. A tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Voilà, tous ceux dont on n'a pas pu malheureusement traiter, entre guillemets, le cas aujourd'hui sur l'antenne d'RTL, je vous conseille les ouvrages de nos invités parce que, en plus, vos enfants vont pouvoir devenir les acteurs aussi de leur guérison, la guérison de leur peur. Isabelle Filioza, je rappelle votre ouvrage « Mes peurs, amis ou ennemis » aux éditions Nathan. Ce sont les cahiers Filioza et évidemment, on les conseille. Et puis, le petit dernier, on le dit quand même, qui vient de sortir, c'est « La colère et le retour au calme ». C'est comme ça, ce sera paix dans les familles grâce à vous, Isabelle Filioza. Et puis Angéline Després, je vous remercie. Et je rappelle aussi, pour les parents et les enfants, 50 activités pour aider votre enfant à grandir heureux. Merci Angéline. Mm-hmm. Merci Isabelle Filioza, je vous embrasse, à la prochaine.
Merci beaucoup.
Et nous, on se retrouve très vite demain sur l'antenne d'RTL à 15h. Et vous savez ce qu'on va faire ? On va mettre à l'honneur nos animaux de compagnie. Quel est leur rôle ? Que nous apportent-ils ? Quelle place occupent-ils dans notre vie et dans la vie de nos enfants ? Ce sera demain à 15h avec vous en direct sur l'antenne d'RTL. Tout de suite, en voilà de drôles d'animaux. Voici Laurent Ruquier, les grosses têtes. Je vous embrasse et je vous dis à demain.
Vous écoutez RTL.